Bonjour, merci de vous savoir très nombreux à l'écoute de Patara, le débat politique de Radio Ndékéluka. Vendredi, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelle l'initiative visant à écrire une nouvelle constitution en République centrafricaine. Cet arrêt de la Cour intervient au moment où le comité chargé de rédiger la nouvelle loi fondamentale du pays a déjà commencé ses travaux. Les décrets créant ce comité et entérinant la désignation de ses membres sont donc annulés. Que vous inspire la décision de la Cour constitutionnelle? Pourquoi le pouvoir veut coûte que coûte éditer une nouvelle constitution? Les arguments de la Cour sont-ils convaincants? Et si le président de la République a déclaré lors de l'installation des membres de la constituante qu'aucune institution ne peut faire obstacle à la volonté du peuple, que va-t-il faire? Voilà tant d'interrogations qui vont nous guider tout au long de ce débat politique de Radio Ndékéluka, le premier média centrafricain. Deux éminents juristes ont répondu à notre invitation d'aujourd'hui. L'un est un avocat de formation, ancien président du Conseil national de transition entre 2003 et 2005 et premier ministre de transition. Je voulais ici nommer Maître Nicolas Tchangaï, avocat au barreau de Centrafrique. Bonjour et merci de participer pour la première fois à ce débat.
Bonjour.
Et l'autre, ancien à la faculté des sciences juridiques et politiques à l'Université de Bangui, ancien directeur de l'École nationale d'administration et de la magistrature et actuel conseiller politique du président de l'Assemblée nationale, Monsieur Alexis Ndouya-Bella. Bonjour.
Bonjour Armando, je salue toutes les auditrices et tous les auditeurs de la radio Ndékéluka.
Oui, Armando Nguindi, c'est moi une fois de plus. Bonjour à toutes et à tous. Tout de suite, nous lançons le débat.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndékéluka.
Ouvrons ce débat avec ce reportage d'Igor Senapaï sur la décision de la Cour constitutionnelle qui a annulé toute initiative tendant à rédiger une nouvelle constitution.
La Cour juge illégale la procédure engagée par le gouvernement pour la rédaction d'une nouvelle loi fondamentale en RCA. Par ailleurs, les juges de la Cour invitent le chef de l'État à faire recours au référendum en application des articles 41 et 90 de la Constitution. Daniel Darlan, président de la Cour.
Décide. Article 1er. Le décret numéro 22-348 du 26 août 2022 portant création du comité chargé de rédiger la constitution de la République centrafricaine. Le décret 22-372 du 14 septembre 2022 modifiant et complétant certaines dispositions du décret 22-367 du 12 septembre 2022 entérinant la désignation des membres du comité chargé de rédiger le projet de la nouvelle constitution de la République centrafricaine et le décret numéro 22-378 du 15 septembre 2022 entérinant la désignation par leur pair des membres du bureau du comité chargé de rédiger le projet de la nouvelle constitution de la République centrafricaine sont inconstitutionnels et sont annulés.
Une victoire pour le Bloc républicain pour la défense de la Constitution, BRDC. Maître Nicolas Tchangaï, membre de l'opposition démocratique.
C'est une décision qui prendra date dans les annales de la justice centrafricaine. Le droit a été dit. Cette décision inattaquable doit être respectée par tous les Centrafricains sans exception.
Rigobert Vondo, avocat du gouvernement, prend acte de la décision de la Cour. Il promet plus de détails après la consultation de ses pairs.
Il est trop tôt de me poser cette question. Je vais devoir, comme vous l'avez entendu, la décision de la Cour constitutionnelle est insusceptible de recours. Mais je ne pourrais pas m'étayer là-dessus. En tant qu'avocat, nous sommes quatre avocats. De ce pas, j'irai vers mes pairs pour que nous puissions en parler.
C'est une défaite pour vous ?
Défaite, non, en tant que telle, non, mais c'est le droit.
Le projet du référendum constitutionnel voulu par le pouvoir de Bangui divise l'opinion depuis le déclenchement de cette procédure en RCA. Ce verdict de la Cour constitutionnelle, susceptible d'aucun recours, met un terme au débat autour de la modification de la Constitution du 30 mars 2016.
Merci, Georges Kansenapaï. Retour dans le studio D du premier média centrafricain. Première prise de parole à vous, Monsieur Tchangaï, au nom de vos collègues du Bloc républicain pour la défense de la Constitution. Vous avez saisi la Cour pour demander l'annulation des initiatives tendant à rédiger une nouvelle Constitution. Comment appréciez-vous le verdict de la Cour constitutionnelle, Monsieur?
Je vous remercie. J'en profite aussi pour saluer les auditeurs de Radio Ndékéluka qui suivent cette émission. Je considère au nom, à mon nom personnel bien sûr, mais aussi en parlant au nom du Bloc républicain pour la défense de la Constitution auquel j'appartiens, que la décision qui a été rendue par la Cour constitutionnelle est une décision qui est fondée en droit. Et donc le problème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que tout le monde va respecter cette décision de justice. Je crois que dans un état de droit, c'est la justice qui constitue le socle de la stabilité sociale. Si on ne respecte pas les décisions de justice, ce serait la loi de la jungle, la loi du plus fort, et ce serait l'anarchie. Et j'ose espérer que le président de la République, qui est le garant de la Constitution, respectera cette décision de justice rendue au nom du peuple centrafricain. Et j'espère également qu'il mettra tout en œuvre pour que ses partisans puissent garder leur sérénité. Et j'ajoute que cette décision de justice rendue au nom du peuple centrafricain ne consacre pas la victoire d'un camp contre un autre. C'est une décision de justice qui vient consolider l'état de droit. Et s'il y a quelqu'un qui a gagné, c'est le peuple centrafricain qui a gagné. Il n'y a ni gagnant ni perdant.
Monsieur Ndjui Abela, vous avez été désigné rapporteur général du comité chargé de rédiger la nouvelle constitution. La Cour vient d'annuler toute initiative pour la rédaction d'une nouvelle constitution. N'est-ce pas un coup dur pour vous, pour le pouvoir d'ailleurs?
Je vous remercie, monsieur Armando. Est-ce un coup dur pour le comité de rédaction? Je me pose assez de questions. J'ai écouté Maître Nicolas Tchangaï dans sa déclaration dire que c'est une victoire. Bon, heureusement, il a bien rectifié tout à l'heure. Ce n'est pas une victoire d'un camp contre l'autre. Hier, nous, on avait fini la plénière du comité quand on nous a annoncé la nouvelle de cette décision. Et immédiatement, moi, j'ai essayé de, comme la décision a été envoyée sur les réseaux sociaux automatiquement, j'ai essayé de lire ça directement en diagonale sur mon portable. Alors, est-ce que c'est une décision rendue en droit? Moi, je doute un peu fort. J'ai beaucoup de doutes. J'ai beaucoup de respect pour la Cour constitutionnelle. Et là, pour moi, comme vous demandez mon appréciation, je donne l'appréciation en tant qu'enseignant du droit. J'enseigne le droit constitutionnel depuis plus de 10 ans. Donc, sur la question de la Constitution, je ne raconte pas la maladie de ma belle-mère. Je dis ce que je sais sur le droit constitutionnel et cette décision rendue hier est la décision la plus médiocre qui soit, aussi bien en la forme qu'au fond. Si vous voulez, je vous donne un seul exemple. À la page, même déjà, je suis allé automatiquement, j'ai imprimé le document et j'ai la version papier sous mes yeux. La Cour se prononce et dit au nom du peuple centrafricain. Ça, c'est une déformation professionnelle qui n'a pas été corrigé en ce qui concerne la rédaction d'une décision des sages de la Cour constitutionnelle. Comme avant, les décisions de la Cour constitutionnelle étaient rendues par les magistrats professionnels, les sages aujourd'hui ont repris la même formulation, au nom du peuple, alors que si on regarde les attributions de la Cour constitutionnelle, il n'est pas dit que la Cour constitutionnelle rend une décision au nom du peuple. En revanche, si vous allez à l'article 107, il est clair parce que j'ai ici la Constitution sous les yeux, ce sont les autres tribunaux, article 107, dit « La justice est rendue sur le territoire de la République centrafricaine au nom du peuple centrafricain par la Cour de cassation, le Conseil d'État, la Cour des comptes, le tribunal des conflits, les cours et les tribunaux. » Ça ne concerne pas la Cour constitutionnelle. Là, déjà, cette donc, formule, en la forme, et puis...
Le verdict de la Cour, en voilà. Commençant au nom du peuple centrafricain,
déjà,
pour vous, c'est pas
problème.
Normal.
Et deuxièmement, vous voyez, si vous allez à la page 3, ce qui est extrêmement grave, la norme de référence de la Cour constitutionnelle, M. Armand Gandhi, c'est quoi? Sur quoi la Cour constitutionnelle doit se référer pour prendre une décision?
C'est pas comment vous pouvez poser la question.
Voilà. Si et donc, vous avez des arguments à développer. Comme vous voyez, après, la Cour dit les rapporteurs ayant été entendus, après en avoir délibéré conformément à la loi. C'est bizarroïde. Est-ce que la norme de référence de la Cour constitutionnelle, c'est la loi? Déjà, à partir de là, je peux vous dire, si vous voulez mon sentiment, toutes les décisions rendues par la Cour constitutionnelle depuis la période de transition, telles que c'est formulé, toutes ces décisions-là sont anticonstitutionnelles. Et je peux vous le dire.
Et donc, même l'élection du président de la République, etc.
Là, les messieurs et dames de la Cour constitutionnelle qui rendent les décisions sous cette forme-là sont les mesdames et messieurs Jourdain de la violation de la Constitution. Parce que les juges constitutionnels, et puis la compétence est bien claire, ne peuvent pas rendre une décision conformément à la loi. C'est tout à fait contradictoire. Ouais, c'est en cela que je dis,
Cette décision rendue hier est la décision la plus médiocre qui soit. Parce que c'est vrai, c'est par mimétisme. Ce sont les magistrats de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif qui peuvent rendre une décision au nom du peuple centrafricain. Et leur norme de référence, c'est la loi. L'article 100, vous voyez ça, je dis le 108 est clair. Les juges sont indépendants. Ils sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions à l'autorité de la loi. Est-ce que les magistrats de la Cour constitutionnelle ou les juges de la Cour constitutionnelle sont soumis à l'autorité de la loi ou à l'autorité de la Constitution?
Et donc, voilà, donc pour vous, déjà, à la forme, le verdict, la décision de la Cour constitutionnelle...
Déjà, à la forme, pose problème.
On va revenir, parce qu'il y a certains points, à la forme, comme vous avez dit, mais aussi au fond. Oui, Maître Nicolas Tchangaï, sur ce point.
Je suis vraiment surpris par la démarche de mon ami jeune frère...
Monsieur Louis.
De Yabila, avec qui on a eu... à échanger sur beaucoup de points de droit, à commencer sur la question de la loi. Mais la Constitution, c'est une loi. La Constitution n'est pas une loi. La Constitution, c'est la loi fondamentale.
Ah, voilà. Ça, vous y êtes.
Alors, je suis surpris que vous, qui êtes enseignant, puissiez considérer que la Constitution ne soit pas une loi. La Constitution est une loi. C'est la loi suprême. C'est la loi fondamentale. C'est la loi mère. C'est pour ça qu'on dit en sango, Mamandia. Le que Mamatia Ndiani tout. C'est à partir d'elle que découle les autres lois. Donc, si la Cour constitutionnelle dit conformément à la loi, le juriste que vous êtes pouvez faire une interprétation qui ne soit pas une interprétation restrictive pour dire que, à travers loi, c'est bien la Constitution. Voilà mon interprétation. Moi, je crois que ce qui est important ici, ce n'est pas de venir discuter sur les questions de forme, si un mot doit être placé ici. Mais les juges, ils rendent les juges de la Cour constitutionnelle, c'est des juges. La dichotomie que vous voulez faire entre les constitutionnels. Vous voulez que la Cour constitutionnelle soit composée uniquement de professeurs de droit constitutionnel. Les magistrats qui sont à la Cour constitutionnelle ont appris aussi le droit constitutionnel. Les avocats qui sont là-bas ont appris le droit constitutionnel. Donc, vous n'avez pas l'apanage de la connaissance du droit constitutionnel. Et ensuite, ils ont sur vous, les enseignants, l'avantage d'être des praticiens du droit. Alors, vous dites que la Cour constitutionnelle ne doit pas rendre la justice au nom du peuple centrafricain. Ils doivent rendre la justice au nom de quel peuple ou de quelle entité? C'est bien au nom du peuple centrafricain que toutes les juridictions, parce que la Cour constitutionnelle est une juridiction. Donc, il faut avoir une conception et une interprétation plus large de ces questions. C'est pour ça que je pense que le problème le plus important, je l'ai souligné au départ, est-ce que le président Touadéra va respecter cette décision de justice rendue au nom du Pétien, lui qui a prêté serment de respecter la Constitution et que lui, il est le garant de l'indépendance de la justice. Voilà le vrai débat aujourd'hui. Et c'est sur cette question-là que nous devons...
Je suis désolé.
Quelques secondes.
Il n'y a pas de vrai débat. Je pense que tout est important. On peut que, quand on parle droit, on discute la forme et le fond. En tout cas, je suis un peu désolé de le dire, je reviens encore là-dessus. Il ne faut pas faire l'amalgame entre Constitution, qui est la grande norme, et la loi constitutionnelle. C'est deux choses tout à fait différentes. Selon les théoriciens, je peux vous citer Carl Smith, il fait bien la distinction. Dans la théorie constitutionnelle, il fait la distinction entre la Constitution, qui est une décision politique, et la loi constitutionnelle. La loi constitutionnelle, c'est celle qui est votée par le pouvoir de révision constitutionnelle dans la perspective de réviser la Constitution. Et donc là, les juristes et les grands juristes sont tout à fait clairs. Ils font bien le distinguo entre la Constitution et la loi. Ce ne sont pas deux normes. La procédure d'élaboration et d'adoption de la Constitution n'est pas la même que la procédure d'adoption et de révision d'une norme de la loi portant révision d'une constitutionnelle. Donc, il faudrait qu'on soit clair là-dessus. C'est pour ça que je dis, je n'ai pas l'apanage. Vous tous, on a fait le droit constitutionnel, mais on n'a pas les mêmes connaissances dans le domaine. Je ne dis pas que quand on aborde le droit constitutionnel en première année, une seule fois, mais par rapport à celui qui a repris encore dans les études supérieures, c'est pas pareil, on n'a pas les mêmes degrés de connaissance dans ce domaine-là. Donc il faudrait qu'on soit clair, c'est pour cela que je ne dis pas qu'ils sont nuls en droit constitutionnel, ils ont le droit d'interpréter, mais il faudrait qu'on interprète en respectant ce que dit la Constitution. Tout à l'heure, on n'est pas encore entré dans le fond, on est resté simplement au niveau de la forme. J'ai relevé
que d'un
point de vue forme déjà, ça pose problème.
Vous avez une minute de plus sur M. Tchangaï. M. Tchangaï, prenez la parole si vous voulez répondre sur la forme et afin qu'on puisse aborder le premier point du fond.
Le problème qui intéresse le peuple centrafricain aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que cette décision de justice sera respectée par le président de la République, oui ou non. Moi, je ne suis pas venu ici pour faire l'étalage des connaissances livresques. Je suis venu ici pour discuter des questions qui intéressent la vie des centrafricains. Une décision de justice a été rendue. C'est normal qu'il y ait des gens qui soient opposés à cette décision de justice.
Je crois que mon ami Louis Abela, qui enseigne à l'université, a tout le loisir de rédiger un article là-dessus et de le publier dans les revues à caractère scientifique. Ça va appeler au niveau doctrinal, n'est-ce pas, les appréciations des constitutionnalistes et d'autres juristes. Mais moi, je dis qu'aujourd'hui, on est confronté à un vrai problème qui concerne la paix dans notre pays, la stabilité des institutions dans notre pays. Est-ce que cette décision sera respectée par le président de la République, oui ou non?
C'est cette question. Abordons notre premier point. La Cour a déclaré que le bureau de l'Assemblée nationale n'a aucun pouvoir de demander au gouvernement de mettre en place une constituante. Que dites-vous de cet argument, M. Ndouya Bila?
Je vous remercie, M. Armando. Déjà, tout à l'heure au début, vous avez fait allusion également à cela, en disant que le président de la République a mis en place une constituante. Vous voyez, c'est une erreur de langage. Le décret pris par le président de la République porte sur la mise en place d'un comité de rédaction. Un comité de rédaction, M. Armando, n'est pas une constituante. Une constituante, et puis je suis heureux d'être en face de Maître Nicolas Tchangaï. La constituante, c'est ce que Maître Tchangaï a mis en place en 2013 de manière illégale par un arrêté primé au ministériel. Or, une assemblée constituante n'est jamais mise en place par un texte réglementaire. En 2013, on a assisté, et là, Maître Nicolas Tchangaï avait pris un arrêté mettant en place les membres du CNT par un arrêté. Alors qu'une constitution, selon ce que moi je sais, là, une constitution est mise en place, est élue par le peuple. Aux États-Unis, lorsqu'il fallait rédiger la constitution, une convention a été élue par le peuple. Et c'est cette convention qui a rédigé la première constitution des Américains. Pareil en France, c'est une assemblée, c'est députés élus pour les États généraux qui avait rédigé une première constitution en 1740. Donc on ne peut pas. Pour mettre en place une constitution, ce n'est pas un acte.
Et
donc,
si ça vous va, est-ce qu'on peut remplacer le mot constitution?
On ne remplace pas.
Par le comité.
Oui,
le comité
on est,
que vous
voilà,
faites partie aujourd'hui.
Donc, ce n'est pas,
en tant que rapporteur
général. Et c'est là où je relève un peu la contradiction. Vous voyez, au départ, vous voyez, la Cour vise une assemblée constituante et elle finit par annuler un comité de rédaction. Donc, il y a une incohérence scientifique et intellectuelle. Il y a des considérants qui visent l'assemblée constituante et puis elle annule curieusement dans sa décision finale, un comité de rédaction. Donc, ce n'est qu'un comité de rédaction, soyons clairs. Ce n'est pas une assemblée constituante.
Maintenant, revenons sur l'avis de la Cour constitutionnelle qui a pensé que l'Assemblée nationale n'a pas cette habilité de demander au président de la République de mettre en place ce comité de rédaction de la nouvelle constitution.
Bon, il faudrait faire de l'historique. Comment on n'a pas l'habilité? Ouais, c'est ça où j'ai dit, moi, je l'ai relevé. Dans le cadre des régimes de type parlementaire, M. Armando, il existe, j'ai lu, parce que la Cour constitutionnelle a fait allusion à cela, si vous le permettez quelques minutes. Je regarde la partie où elle a dit ça, c'est le considérant à la page 9. Considérant que la Constitution du 30 mars 2016 est basée sur la séparation des pouvoirs. Et puis elle ne précise pas, là, la Cour constitutionnelle. Séparation souple ou séparation rigide. Parce que c'est ça, nous qui sommes constitutionnalistes, nous faisons la distinction entre séparation souple et les régimes de séparation rigide de pouvoir. Or là, quand on lit la Constitution centrafricaine, il y a un chapitre 4 qui traite des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Donc, on est dans le cadre d'un régime de collaboration de pouvoir. Ce n'est pas un régime de séparation. Et c'est dans ce sens-là que l'Assemblée nationale a saisi. On a créé un ministère chargé de relations avec le Parlement. Voilà, c'est pour cette collaboration entre ces deux types de pouvoirs. La Cour constitutionnelle ne peut pas dire un principe de séparation de pouvoirs dont elle n'a pas le droit de saisir. Donc, il y a une sorte de collaboration constitutionnelle qui est prévue dans la Constitution, M. Armando. C'est ça ce raisonnement que je ne comprends pas. Nous ne sommes pas, si c'est un régime présidentiel, ou la séparation rigide, au pouvoir exécutif, ce que fait l'État, et au pouvoir législatif. Et donc, il n'y a pas, même dans le système présidentiel, il y a une poche, quand même, petite collaboration. Donc, on ne peut pas dire que se fonder sur cet argument, en dire dans la mesure où il y a un chapitre 4 qui consacre une collaboration entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Bon, en tout cas, je suis désolé de constater que la Cour constitutionnelle a pu dire que, bon, l'Assemblée nationale a donné le problème. Et ça, je suis d'accord. On est parti d'une proposition de révision constitutionnelle, qui ne pouvait pas aboutir au niveau parlementaire. Et ça, on est d'accord. Parce que moi, je l'ai même, quand on avait posé le problème en 2004, lors du coronavirus, j'étais parmi les ceux. En 2020, voilà. Les parlementaires de la 6e République étaient venus me voir. Est-ce qu'on peut, par rapport au coronavirus, pour éviter un vide institutionnel, est-ce qu'on peut modifier la Constitution pour proroger à la fois le mandat du président de la République et des députés? À l'époque, je leur ai dit non. Ils se fondaient sur les dispositions de l'article 156. En l'absence du Sénat, l'Assemblée nationale exerce la totalité du pouvoir législatif. Je dis non. En constitutionnalisme, il faut faire le distinguo entre pouvoir législatif et pouvoir constituant. La Constitution ne dit pas qu'en l'absence du Sénat, vous avez la totalité du pouvoir législatif et le pouvoir de révision constitutionnelle. Et donc, vous ne pouvez que voter des lois ordinaires et des lois réglementaires. Donc, vous ne pouvez pas, puisque la Constitution est claire, c'est le pouvoir de révision constitutionnelle qu'on appelle le Congrès. C'est le Congrès qui peut procéder à une révision. Et là, avec nos amis de l'opposition, on est d'accord sur ce point. Donc, en l'absence du Sénat, aucune révision. Donc, c'est face
on
à
va
ce
écouter
blocage
Maître
que dans Tchanga. Le cadre de la collaboration, l'Assemblée nationale a demandé...
Sur le premier point, M. Tchanga, en ce qui concerne la capacité ou bien le pouvoir de l'Assemblée nationale de demander au président de l'Assemblée, au président de la République de mettre en place ce comité de rédaction de la nouvelle Constitution.
Et avant de répondre à ça, je voudrais rétablir d'abord une vérité historique. Quand j'entends M. Ndouya Bella dire que c'est le Premier ministre qui a nommé les membres du Conseil national de transition, moi, cela me surprend. C'est vrai, c'est moi, en tant que Premier ministre de transition, qui avais signé l'arrêté. Mais cet arrêté entérinait la désignation des membres par toutes les entités, par toutes les forces politiques et sociales de la République centrafricaine. Je ne me suis pas levé un matin comme ça pour choisir mes amis, pour les nommer au Conseil national de transition. Ce sont les associations, les partis politiques qui ont désigné leurs représentants qui devraient siéger au Conseil national de transition. Et quand la liste était venue, je n'ai fait que entériner par un arrêté la désignation des membres par leurs entités respectives. Tout comme lui, il a été choisi dans le comité de rédaction de la nouvelle Constitution. Le chef de l'État ne les a pas nommés intuito personae. C'est-à-dire qu'il a fallu que ce soit les différentes entités qui choisissent leurs représentants devant siéger dans ce comité. Et le président de la République a pris un décret pour entériner ces désignations. C'était la même procédure. Ceci étant dit, je pense que la question de la constituante, c'est un faux débat. Nous n'allons pas ici épiloguer sur des petits détails, sur des mots. Mais même au sein du pouvoir, eux aussi parlent de constituante. Maintenant que la Cour constitutionnelle a repris ça, bon, ça devient un problème. On ne va pas discuter de ces questions-là. Maintenant, j'ai eu effectivement sur la distinction entre la question de révision de la constitution, de nouvelle constitution. Évidemment, les positions que le professeur Ndouya Bella avait défendues en 2020 étaient une position patriotique. Et sur le plan scientifique, il avait raison, on était sur la même longueur d'onde, parce qu'il faut faire la différence entre le pouvoir législatif et le pouvoir de révision de la constitution. Voilà. Que certains considèrent appellent pouvoir des constituants, dérivés, etc.
Dépassé, ce terme
voilà,
a déjà
bon,
dépassé.
Donc, bon, ça, je ne suis pas intéressé. C'est que la question de savoir est-ce que l'Assemblée nationale seule peut réviser la constitution. Et donc, effectivement, au départ, pour l'année 2022, il était question de procéder par une révision de la constitution. Mais lorsqu'il y a cet obstacle-là, où en l'absence du Sénat, il n'était pas possible de réviser la Constitution, parce que pour réviser la Constitution, il faut que le Sénat existe et que le Congrès statue à une majorité qualifiée de deux tiers. Face à cette difficulté, ils ont contourné pour opérer en réalité un véritable coup d'État. Comment voulez-vous que le président de l'Assemblée nationale donne des injonctions au président de la République pour lui dire que le gouvernement convoque une équipe pour mettre en place une constituante? Il n'en a pas le pouvoir. Et il y a une procédure. Il faut lire le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Lorsque l'exécutif envoie un projet de loi, le projet de loi arrive d'abord sur le bureau de l'Assemblée nationale qui en discute de la recevabilité et confie ce projet de loi à une commission qui en discute et l'adoption se fait en plénière de l'Assemblée nationale. C'est pas ça la procédure. Le président de l'Assemblée nationale a cru devoir demander au président de la République de changer la constitution de la République. Il n'en a pas le pouvoir. Et ça, je crois que nous avons développé cet aspect-là dans notre recours en inconstitutionnalité, parce qu'il y a une procédure qu'il faut suivre. Parce que vous savez, la procédure est la garantie des libertés. C'est dans la forme que le droit doit être respecté avant d'aller dans le fond. Donc le président de l'Assemblée nationale n'a aucun pouvoir de saisir proprio motu, c'est-à-dire de son propre chef, le président de la République, pour lui dicter une conduite à tenir. Et c'est ce qui a été relevé aussi par la Cour constitutionnelle. Et je dis que sur ce point précis, la Cour constitutionnelle avait raison.
Nous allons.
Je ne dis pas que c'est le président de l'Assemblée nationale qui a saisi un tuto personnel. Le président de la République, non, ça c'est faux. Il y a des structures au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a le bureau de l'Assemblée nationale, monsieur Maître Tchangaï.
Je m'en tiens à la lettre qu'il a envoyée. Hein.
Voilà, donc le bureau a siégé. J'étais là lorsque le bureau, composé de toutes les entités, s'était prononcé. Parce que quand un dossier ou un sujet ou un projet ou une proposition arrive, c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui examine la recevabilité avant de transmettre en plénière.
Mais est-ce que c'est transmis? Là,
est-ce que, là, ça, est-ce a que
ça, a été fait? Ça a été transmis.
Le bureau s'est prononcé et a renvoyé le document.
Le dossier, le bureau ne peut se prononcer que sur la recevabilité, c'est tout. Mais est-ce que le bureau, ayant prononcé la recevabilité, a transmis à une commission? Et la commission était composée de qui?
Quelle commission? Je pense que là, ils ont dit qu'au niveau, ça ne valait pas la peine de transmettre au niveau.
Pourquoi?
Mais puisque le Sénat n'existe pas, ils vont transmettre. Ah, bon? Il faudrait que ça aille au niveau de la commission de l'Assemblée nationale et que ça aille également au niveau du Sénat. C'est un projet de. Vous l'avez dit tout à l'heure.
Vous voyez l'obstacle vous-même.
Mais voilà, donc il y a un obstacle.
Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un obstacle?
Le bureau a décidé de renvoyer ça au gouvernement. C'est tout. Comment on pouvait renvoyer? Vous l'avez dit vous-même qu'en l'absence du Sénat, on ne peut pas réviser la Constitution. Donc on va envoyer pour que l'Assemblée nationale toute seule se prononce.
Je parle de la commission de l'Assemblée nationale.
Oui, mais juste.
Donc ça veut dire que le président de l'Assemblée nationale, le bureau, a filé la patate chaude à toi, Dera.
Mais comment ça?
Mais bien sûr. Est-ce que vous ne pouvez pas vous prononcer sur la recevabilité, ne pas envoyer à une commission de l'Assemblée nationale pour examiner et que la question soit débattue en plénière par l'ensemble des députés
par
de la nation?
Chambre, et puis c'est tout. On prend une décision, puis on va.
Mais alors pourquoi vous voulez?
Mais
pourquoi vous voulez
changer de révision? Si c'est un projet de loi ordinaire,
qu'il n'y a pas de Sénat. Pourquoi vous avez voulu que
c'était un projet? Bon, si vous voulez, je vais vous le dire. Ce que vous dites, c'est bien, c'est une bonne proposition que vous faites. Le bureau aurait pu renvoyer ça. Mais je ne vous le dis pas. Pour ce que je sais, même en l'absence du Sénat, on pouvait même réviser la Constitution en fonction de ce que je sais.
Mais est-ce qu'on a demandé l'avis de tous les députés en renvoyant ce projet au niveau de plénière? C'est ce qui n'a pas été fait. C'est pourquoi la Cour constitutionnelle en a relevé.
Mais je dis, si ce serait été une loi, une proposition, un projet de loi ordinaire, en l'état actuel, on devait. Mais ce n'est pas n'importe quelle proposition, une proposition de loi de révision. La procédure, comme il le disait bien, la procédure est décrite à l'article 152. La procédure dans ce domaine de revient ne peut aboutir que si les deux assemblées en congrès se réunissent pour se prononcer. Donc on ne peut pas. Un projet de loi constitutionnelle ne peut pas être simplement envoyé à l'Assemblée nationale pour étude et renvoi. Ça devait aussi aller au Sénat.
Ça veut dire que le président de l'Assemblée nationale a compris qu'il ne pouvait rien faire. Il a renvoyé le bébé au président de la République.
Et donc il fallait.
Voilà, c'est ça.
c'est une possibilité.
Voilà,
ce qui concerne les pouvoirs du président de la République en matière d'initiative d'abrogation de la Constitution, au regard des articles 33 à 50 de la Constitution et surtout l'article 38, la Cour a dit qu'aucune disposition ne lui confère au président de la République une initiative en matière d'abrogation de la Constitution ni de mise en place d'une constituante ou d'un comité de la rédaction. Oui. Et quel commentaire faites-vous de cette décision de la Cour?
Là, je suis surpris. Ça, c'est des notions que, vous voyez, là, la Cour constitutionnelle a introduit elle-même des notions qui ne figurent pas dans la Constitution. Je ne sais pas, peut-être Maître Tchangaï, là, il peut me donner le contraire, de se dire le contraire de ce que je dis. Dans la Constitution, on ne fait nullement allusion à l'abrogation. J'ai fouillé en vain.
Voilà.
Les décisions disent l'abrogation de la Constitution. Je ne vois pas dans quel niveau on a parlé de l'abrogation de la Constitution. Voilà, encore là, c'est un grand hors sujet de la Cour constitutionnelle. La Constitution ne fait même pas allusion. Quel passage? Je ne sais pas, démontrez-moi. Quel passage de la Constitution en vigueur fait allusion à une procédure d'abrogation de la Constitution?
Mais si lorsqu'on a l'idée d'élaborer une nouvelle Constitution, certainement l'ancienne va disparaître.
Je crois que c'était l'un des arguments qui avait été utilisé par le PRDC. Nous avons dit dans notre recours en inconstitutionnalité que le président de la République, juridiquement, a l'initiative de la révision de la Constitution. Or, il s'est placé dans une démarche d'abrogation de la Constitution.
Ah oui, c'est vous qui le dites.
C'est moi qui l'ai dit. Vous êtes dans une démarche d'abrogation de la Constitution parce que vous ne voulez pas que la Constitution de 2016 puisse subsister et il faut la remplacer par une nouvelle Constitution qui doit abroger celle de 2016. Donc, votre démarche est anticonstitutionnelle parce que le président de la République n'a pas l'initiative de l'abrogation d'une constitution. Il a l'initiative certes, de la révision. Mmh. Et que tous les actes qu'il pose doivent être encadrés par la constitution. Vous ne trouverez pas dans la constitution une seule disposition qui autorise le président de la République à abroger la constitution sur la base de laquelle il a été élu, sur laquelle il a prêté serment. Et sur ce point, la Cour constitutionnel a entièrement raison.
Ok, je vous réponds directement. Je dis qu'il n'y a aucune discussion dans la Constitution. Si vous voulez, je vous invite à lire ensemble avec moi l'article 90 de la Constitution. Le président de la République, après consultation du président de la Cour constitutionnelle, après consultation, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, peut soumettre au référendum tout projet de réforme. Alors, ça, c'est le contraire de ce que vous dites. Au contraire, le chef de l'État, article 90 de la Constitution. Tout projet de réforme, vous parlez d'abrogation parce que, bon, ça, c'est une présomption. Ils font peser sur la démarche du chef de l'État une présomption d'abrogation. Alors que là, la démarche du chef de l'État s'inscrit dans le cadre de réforme. Et l'article 90 dit « peut soumettre au référendum tout projet de réforme qui, bien relevant du domaine de la loi, serait susceptible d'avoir des répercussions profondes sur l'avenir de la nation et les institutions nationales. Il en sera ainsi notamment des projets de loi relatifs à l'organisation des pouvoirs publics ou la révision de la... » Ça veut pas, c'est pas
non,
clair?
Non.
L'organisation des pouvoirs publics, ça, si on peut des réformes dans ce sens, est-ce que là, c'est
oui,
c'est,
oui,
c'est,
on écoute, mais
c'est une abrogation?
Oui, monsieur,
c'est une réforme qu'on
monsieur
peut...
Changaï.
Là, l'article 90, je crois que même la Cour constitutionnelle a évoqué cette possibilité et a conseillé au président de la République d'utiliser cette...
Monsieur Ndjou, on écoute monsieur Changa sur ce point, oui. Allez-y.
Vous savez, je ne sais pas comment vous faites la lecture des textes. Je suis vraiment surpris, je suis vraiment surpris de votre lecture, de votre compréhension de l'article 90.
Mmh.
L'article 90 parle de tout projet de réforme qui, bien que relevant du domaine de la loi. Le domaine de la loi, c'est quoi? Ça renvoie à l'article 80. Est-ce que dans l'article 80, vous avez la révision de la Constitution? Je vous pose la question. L'article 80 de la Constitution renvoie, est-ce qu'il y a la question de la révision de la Constitution dans l'article 80 de la Constitution? Il s'agit de loi ordinaire, il ne s'agit pas de loi constitutionnelle. Premièrement. Deuxièmement, pour aller au référendum, il faut qu'il y ait une loi organique pour encadrer, mais bien sûr...
C'est une nouveauté.
Oh là là.
Et ce qui est prévu dans le code électoral, ce n'est pas suffisant?
Alors, donc, vous avez dit que vous avez lu la décision de la Cour constitutionnelle, non?
Hein?
Bon, lisez ça, je vous renvoie à la lecture de la décision de la Cour
constitutionnelle. C'est là où même aussi je suis surpris.
Mais non, je vous renvoie à la lecture.
Je suis surpris de constater qu'on conseille encore de mettre en place une loi référendaire alors qu'on a le code électoral qui prévoit...
Lisez la Constitution. Je vous renvoie à la lecture de la Constitution et à la lecture de la décision de la... constitutionnelle. Donc, ce qui s'est préparé, en réalité, c'est un coup d'État. Nous l'avons dit. Votre comité, là, est un comité de préparation d'un coup d'État constitutionnel parce que tout ce que vous faites était en dehors de la Constitution, en dehors de la légalité républicaine. Voilà la réalité. Donc, maintenant que la Cour constitutionnelle a rendu sa décision, qui est inattaquable, qui s'impose à toutes les autorités publiques, aux administrations, aux personnes morales, ou privées, cette décision doit être exécutée. Donc, ce n'est pas la peine de tergiverser, de tourner autour du pot. Est-ce que le président de la République, Touadéra, va respecter la décision de la Cour constitutionnelle? Voilà l'enjeu. Il ne faut pas tourner autour du pot. Il faut qu'on réponde à cette question. Vous êtes conseiller juridique ou conseiller politique?
Conseiller politique.
Vous aurez pu être conseiller juridique, je ne sais pas pourquoi. Hein? Vous aurez pu être le conseiller juridique. Vous avez pris la place de quelqu'un d'autre. Bon, donc, vous aurez pu être le conseiller juridique de président de l'Assemblée nationale. Bon, vous-même, au niveau du MCU, puisque vous êtes membre du MCU, vous avez estimé que la Constitution de 2016 est caduque. Ça ne répond même pas aux réalités nationales. Mais les réalités dont vous parlez là, c'est lesquelles? Ça ne correspond plus aux réalités, ça a été rédigé par des étrangers. Maintenant, nous voulons une nouvelle constitution et cette constitution-là sera la constitution magique. Avec cette constitution-là, les routes seront bitumées dans toute la République centrafricaine. Les hôpitaux seront créés, les universités dans chaque préfecture de la RCA. N'est-ce pas? Il n'y aura plus de chômage. Comme disait le président Patassine Nzakegagipa, il y aura l'argent, tout le monde sera à l'aise. C'est ça, votre constitution magique que vous voulez proposer au peuple centrafricain. Mais le peuple centrafricain n'est pas dupe. C'est vous-même qui parlez de l'abrogation puisque vous dites que la constitution de 2016 est devenue caduque. Mais si elle est devenue caduque, mais vous n'avez pas tiré les conséquences de ce que vous êtes en train de faire. Le président de la République actuelle a été élu sur la base de la constitution de 2016. Pas sur la base de la constitution qu'il veut s'attribuer. Il n'a pas prêté serment sur sa constitution à lui, mais sur la constitution de 2016. Mais si cette constitution est caduque, est frappée de caducité et que vous la remplacez, il tirera sa légitimité de quoi? Est-ce que sur la base de cette nouvelle constitution que vous préparez là, comment il va prêter serment puisqu'il n'a pas été élu sur la base de sa constitution à lui? Devant quelle cour constitutionnelle? Qui aurait pris acte de son serment pour le renvoyer à l'exercice de ses fonctions? Vous voyez le danger dans lequel vous êtes en train d'entraîner le président de la République? Vous êtes en train... Vous qui êtes dans le MCU, dans la majorité présidentielle, c'est vous-même qui sciez, vous êtes en train de scier la branche sur laquelle le président de la République est assis. En réalité, c'est nous de l'opposition qui le défendons, parce que c'est nous qui lui montrons la voie par laquelle il doit sortir, c'est-à-dire la grande porte pour que demain, il puisse avoir une retraite digne d'un ancien chef d'État.
Merci, monsieur le bon conseiller du MCU. Mais je veux quand même vous répondre. Non, c'est ce genre de populisme-là que je n'aime pas. Il ne faut pas faire le raccourci en disant élaborer une constitution, bon, ça va favoriser tout le développement. C'est du populisme. Je l'ai déjà dit, le développement, et puis je l'ai expliqué en d'autres circonstances, n'est pas un processus linéaire. Il faut dire construire de l'eau, des hôpitaux, et après on revient en arrière pour dire qu'il faut voir les textes. Est-ce que, maître Nicolas Tchangaï, la constitution est un texte immuable qu'on ne doit pas toucher et puis ça doit rester comme ça indéfiniment?
Je ne l'ai pas dit.
La raison, c'est faux.
Je ne l'ai pas dit, il faut suivre la procédure.
Et donc,
il faut respecter
vous,
la procédure.
Vous faites une, c'est ce que je vous comprends, vous faites une fixation sur le mandat du chef d'État pour dire non, il ne faut pas toucher la constitution. C'est faux. Est-ce que vous avez vu techniquement le problème que ça va poser en ce qui concerne le renouvellement de la Cour constitutionnelle l'année prochaine? D'ici l'année prochaine, le mandat de la Cour constitutionnelle prend fin en 2024. Et là, et vous le savez, quand on lit l'article 41, dit pour le renouvellement, il faut 2 magistrats, dont une femme. Il faut 2 avocats, dont une femme. 2 enseignants du supérieur, dont une femme. Bon, chez vous, les avocats, ça ne posera encore problème. Maître Sombo Dibolé a rendu très bien les critères. Chez les magistrats, pareil. Il y a des femmes qui peuvent remplir. Mais à la faculté de droit. Je l'ai déjà expliqué, maître Nicolas Tchangaï. À la faculté de droit, je le dis en tant qu'ancien vice-doyen de la faculté de sciences juridiques et politiques. L'unique femme qu'on a, c'est madame Daniel Dallan. Si on ne change pas la constitution, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'à partir de l'année prochaine, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement va déclencher le processus de la composition de la Cour constitutionnelle.
Mais est-ce que ce que vous avez relevé...
Voilà, et donc, nous,
vaut l'essentiel,
on va faire comment? Il faut qu'on viole la constitution, puisque la constitution impose la parité. Et l'unique femme qu'on a recrutée cette année, elle ne totalise que 2 ans. La constitution prévoit qu'il faut 10 années d'expérience pour être membre juge constitutionnel. Or, elle n'a que 2 ans. L'unique femme, depuis la création de l'université, depuis la création de la faculté de sciences juridiques et politiques, c'est madame Daniel Dallan. Et donc, le mandat est non renouvelable. C'est-à-dire qu'elle ne va pas se présenter. Et bon, l'année prochaine, on fait comment? On doit violer la constitution? Est-ce qu'on ne doit pas modifier, même si... Parce qu'encore là, sur quelle base? Parce que je n'ai pas les preuves qui me montrent à moi qu'on a modifié la durée du mandat du chef de l'État. C'est dans quel texte? Donc on est en train de tabler sur ce qui n'existe pas. Donc en réalité, quand on se projette sur l'avenir, vous voyez, ce cas même unique de la faculté de sciences juridiques, si on le respecte, c'est le principe de la parité qui est consacré par la Constitution. On doit faire. Nous, on viole, on dit non. L'année prochaine, bon, on va envoyer 2 hommes contrairement à ce qui est prévu dans la Constitution.
Vous voulez répondre? Quelques secondes.
Techniquement, vous voyez. Donc, il n'y a pas seulement que les dispositions relatives au mandat du chef de l'État qu'il faut voir. Il y a d'autres.
Oui, vous l'avez déjà relevé. Oui,
j'ai déjà relevé.
Donc, mais vous voulez qu'on change de Constitution à cause de Madame Dallan? C'est à cause de Madame Dallan. C'est aujourd'hui que j'apprends que la Constitution doit être changée à cause de Madame Dallan parce que l'année en 2023-2024,
c'est l'année prochaine.
L'année prochaine, 2024. L'université de Bangui ne sera pas, tout au moins la faculté de droit, ne sera pas en mesure de présenter une femme parce que l'unique enseignante qui a totalisé plus de 10 ans ou qui a totalisé au moins 10 ans d'exercice, c'est Madame Dallan. Et c'est pour ça que vous voulez changer la Constitution? C'est pour ça?
Et alors? On ne peut pas? Pourquoi pas?
C'est pour ça que vous voulez changer la Constitution?
Pas changé au départ. C'était une révision.
Qu'est-ce que dit la Constitution? Et quel est le nombre exact des membres de la Cour constitutionnelle? C'est 9, non? Est-ce qu'ils sont 9? Pourquoi ils ne sont pas 9? Ils ne sont pas 9 parce qu'il n'y a pas le Sénat. Est-ce que ça a empêché la Cour constitutionnelle de fonctionner? À l'impossible, nul n'est tenu. Si au niveau de la faculté de droit, il n'y a pas une enseignante qui a 10 ans de profession, c'est pas ça qui va empêcher l'existence d'une Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle sera incomplète parce qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Tout comme aujourd'hui, au lieu de siéger à 9, il siège à 8. Parce que le Sénat n'est pas là et que le président du Sénat ne pouvait pas désigner quelqu'un pour siéger à la Cour constitutionnelle. C'est aussi simple que ça.
Oui, non, ça c'est différent. Voilà,
Non, pas du tout. Désolé, le temps nous fait défaut. Je vous invite à suivre l'extrait du discours du président de la République, Faustin Archange Touadéra, lors de la cérémonie d'installation des membres du comité chargé de rédiger une nouvelle constitution en République centrafricaine.
Élu et réuni par le peuple détenteur de la souveraineté nationale au suffrage universel direct et fidèle à mon engagement républicain, je ne saurais rester insensible à la demande pressante de mon peuple de se doter d'une nouvelle loi fondamentale. C'est donc fort de toutes ces recommandations et conformément à la volonté souveraine du peuple que le comité inclusif chargé de rédiger la nouvelle constitution de la République centrafricaine a été mise en place par décret, puis en conseil des ministres. Je consulterai le moment venu le peuple souverain sur le projet de la nouvelle Constitution de la République centrafricaine. La Constitution du 30 mars 2016, vous le savez, ne confère ni au président de la République, ni à une autre institution le pouvoir de se dresser devant la souveraineté populaire, de limiter ou d'empêcher l'exercice de cette souveraineté. J'ai noté que la majorité de nos compatriotes estiment que notre corpus juridique ne doit pas être immuable. Il doit s'adapter aux évolutions sociales, politiques, techniques et environnementales, tant nationales qu'internationales. J'ai également noté qu'une minorité exprime des inquiétudes. À ces compatriotes, je voudrais rappeler, pour les rassurer, de mon ferme engagement à renforcer l'ancrage démocratique dans notre pays.
Voilà, c'était le chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, dans le débat politique de Radio Ndékéluka. Maître Nicolas Tchangaï, en écoutant le président de la République, pensez-vous qu'il va prendre une autre option pour atteindre le but recherché?
Le président de la République?
Oui.
Ça, il l'a fait avant la décision de la Cour constitutionnelle. Maintenant que la Cour constitutionnelle a rendu une décision qui s'impose à toutes les autorités et à toutes les institutions, y compris le président de la République, je ne vois pas comment il peut emprunter une autre voie. Ce que j'ai écouté, c'est qu'il dit qu'il met en place un comité chargé de rédiger la nouvelle constitution. Chargé de rédiger la nouvelle constitution, c'est-à-dire que votre comité là rédige non pas un projet ou un avant-projet, mais il rédige directement la constitution. C'est ça. Alors ça veut dire que vous êtes devenu une constituante. Ça sort de la bouche du président de la République. Vous rédigez une nouvelle constitution. Il ne parle ni d'avant-projet, ni de projet de constitution. Vous, comité, vous rédigez une nouvelle constitution. Et c'est cette nouvelle constitution qu'il va soumettre au référendum. Je pense que dans ce propos, j'ai entendu parler à la fois de souveraineté nationale et de souveraineté populaire. N'étant pas constitutionnel comme vous, si je peux avoir un éclairage de la part du professeur Douyabela sur la distinction entre la souveraineté nationale et la souveraineté populaire.
On revient vers vous, monsieur Douyabela, sur l'extrait du président de la République. Quel commentaire faites-vous de cela?
D'abord, je salue la perspicacité de la réflexion du chef de l'État relative à des structures qui se dressent devant la souveraineté du peuple. Et là, il a été clair et formel, et puis je partage entièrement ton avis. Dans le cadre de la lutte de l'opposition démocratique, ils ont mis en place une structure qui est illégale et même anticonstitutionnelle. Pourquoi je dis illégale? C'est pour cela que le chef de l'État dit qu'il n'appartient pas à un groupuscule d'individus de se dresser devant la souveraineté populaire. Il n'y a pas de super-peuple. Ceux qui sont de l'opposition démocratique, tout comme du BDRC, ne sont pas de super-peuple. Ils n'ont pas plus, ils ne sont pas détenteurs de plus de souveraineté que les autres. Et par rapport à la Constitution, le seul gardien de la Constitution, c'est le président de la République, chef de l'État, et c'est même consacré à l'article 33. Et le deuxième gardien de la Constitution, c'est la Cour constitutionnelle. Donc aucun groupuscule ne peut se dire, non, on crée une structure pour faire barrage à toute modification.
Je demande un minimum de respect. Je crois que jusqu'ici... Écoutez.
Laissez-moi
je vous ai respecté dans mes propos. J'exige de votre part le même respect. J'appartiens à ce groupe. Ce n'est pas un groupuscule. Et donc, je vous dis que ce n'est pas un groupuscule.
Laissez-moi le temps de parler.
Je vous ai traité avec beaucoup de déférence.
Moi également, je traite avec beaucoup de déférence.
Mais ne parlez pas de groupuscule.
Vous allez répondre plus tard. Oui, allez-y.
C'est un groupe alors. Donc je rectifie, c'est un groupe. Ou bien un groupement. Je rectifie. Comme tu as raison, c'est un groupement. Et quand je dis un groupement illégal, c'est en regardant le texte relatif à la loi sur les partis politiques et de l'opposition démocratique. Le chapitre 3 traite de regroupement des partis politiques. Or là, dans ce qu'ils ont mis en œuvre, c'est un regroupement de partis politiques avec la société civile, etc. Et en cela, à ma lecture, je dis, c'est une structure tout à fait illégale. Parce que la loi sur le statut des partis politiques ne prévoit pas le regroupement. Ce texte est là. Et vous, le chapitre 3 traite du regroupement des partis politiques avec fusion, union et alliance. C'est bien décrit ici. Et puis dans ce texte-là, on n'a pas dit que les regroupements. Ils se sont regroupés dans le cadre de le code 2020. Oui, c'est conforme à l'esprit de cette disposition-là de la loi sur les partis politiques et le nouveau parti politique et du statut de l'opposition. C'est conforme. Et la BRDC est conforme. Et donc c'est en cela.
Mais déjà sur ce que le président de la République a dit, est-ce que c'est dans cette idée de développement que le président de la République a dit qu'aucune aucune personne ou aucune organisation
s'auto-proclame ou dit non, on doit s'opposer à toute volonté, dire non, on s'oppose à la révision de la Constitution. Seul gardien de la Constitution, c'est le président de la République et la Cour constitutionnelle.
Oui, maître Nicolas Tchangaï, sur ce point, rapidement.
D'abord, je réponds à un point qu'il a soulevé et qui concerne le corpus juridique. Je crois que le président de la République a repris un peu. Je crois que c'est vous qui, certainement, en tant que juriste, avez conseillé ça, puisque vous êtes aussi dans le MCU, que le corpus juridique n'est pas immuable. Mais qui a dit que le corpus juridique n'est pas immuable? Puisque dans la Constitution, le président de la République a l'initiative de la révision. Donc, c'est normal que la Constitution puisse faire l'objet de révision. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que la procédure que vous suivez n'est pas prévue par la Constitution, puisque vous voulez opérer carrément un coup d'État constitutionnel. Voilà le problème. Quand vous parlez de BRDC, c'est la liberté d'association. Les partis politiques, c'est des associations, tout comme les associations de la société civile. C'est la liberté d'association. Nous, les partis politiques, nous pouvons nous mettre en symbiose avec les associations de la société civile pour poursuivre un but noble, c'est-à-dire défendre la Constitution de la République. Qu'est-ce qu'il y a d'illégal dedans? C'est la galaxie nationale là, qui est légale. Pour vous, c'est la galaxie nationale qui est légale. Et que le BRDC est illégal sous prétexte que les associations de... Les associations politiques et les associations de la société civile se sont mis ensemble. Quel est le texte qui interdit ça? Vous êtes juriste? C'est interdit?
C'est interdit.
Par quel texte? Dites-moi.
Le texte est là.
Interdit.
C'est relatif aux partis politiques et au statut de l'opposition. C'est-à-dire, si vous dites, je vous lis.
C'est interdit.
Les groupements de partis politiques sont issus de la fusion de l'union ou de l'alliance des partis politiques légalement constitués. La fusion est la création d'une nouvelle structure où les partis politiques perdent leur personnalité. Vous voyez la dangerosité.
Lisez-moi la disposition qui interdit ça. Non. Vous avez les textes.
Mais le texte est là. Vous avez la possibilité de vous regrouper. Regroupez-vous entre vous, pas avec la société civile. Vous n'avez pas les mêmes objectifs que la société civile.
Lisez-moi.
Un parti politique, par définition, est créé pour accéder et gérer le pouvoir. Ce n'est pas le cas de la société civile.
Laissez-moi parler, monsieur. Allez-y. Monsieur Ndoui Abela, laissez-moi parler. Vous avez le texte entre les mains. En droit, il est dit, ce qui n'est pas interdit est permis. Lisez-moi. Puisque vous avez le texte en main, la disposition qui interdit aux associations politiques, tout au moins les partis politiques, de s'associer avec les associations de la société civile. Lisez-moi la disposition qui interdit ça.
Article 31.
Oui, que dit l'article?
Ça peut être du regroupement de partis politiques.
Où est l'interdiction?
On n'interdit pas. Vous ne devez pas vous regrouper avec
la société. Vous n'êtes pas un praticien du droit.
Qu'est-ce que ça veut dire, praticien du droit?
Vous n'êtes pas un praticien du droit.
Nous tous pratiquons le droit à notre manière.
Vous êtes un théoricien. Vous n'êtes pas un praticien du droit.
C'est le débat qu'on reconnaît tout le temps. Avant de donner le verdict de la Cour, la présidente de la Cour constitutionnelle, Danièle Darlan, a profité même à rappeler le principe de la souveraineté d'un État démocratique et à ceux qui estiment le peuple est au-dessus des institutions. Écoutons ensuite faire l'extrait de la déclaration faite par Madame Darlan.
Voici ce que vous dit le peuple. Article 26. La souveraineté nationale appartient au peuple centrafricain, qui l'exerce soit par voie de référendum, soit par l'intermédiaire de ses représentants. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu, ne peut s'en attribuer l'exercice ni la gagner. Les institutions éligibles chargées de diriger l'État tiennent leur pouvoir du peuple par voie d'élection au suffrage universel direct ou indirect. Article 28. L'usurpation de la souveraineté par coup d'État, rébellion, mutinerie ou tout autre procédé non démocratique constitue un crime imprescriptible contre le peuple centrafricain. Toute personne ou tout État tiers qui accomplit de tels actes aura déclaré la guerre au peuple centrafricain. Toute personne physique ou morale qui organise des actions de soutien, diffuse ou fait diffuser des déclarations pour soutenir un coup d'État, une rébellion ou une tentative de prise de pouvoir par mutinerie ou par tout autre moyen, est considérée comme co-auteur. Pour sa part, la Cour constitutionnelle poursuivra sa mission de protection de la volonté du peuple inscrite dans la Constitution, à moins que vous ne réussissiez votre coup de force contre cette haute juridiction.
C'était donc Madame Danièle Darlan, présidente de la Cour constitutionnelle. Monsieur Ndoui Abela, vous avez 2 minutes sur la réflexion, la déclaration faite par Madame Danièle Darlan.
Je n'ai pas de commentaire tout à fait particulier. Donc c'est à la fin, développement, etc. Bon, je dirais, puisqu'on dit que la décision de la Cour constitutionnelle insusceptible de recours, tout le monde doit s'y plier. Eh bien, on dit amen, c'est tout. Mais ce que je sais, c'est vrai, comme a dit Maître Nicolas Tchangay tout à l'heure, la procédure n'a pas été bien respectée. Mais je crois savoir qu'à la base de tout ce que nous avons vécu, c'est un député qui avait initié une proposition de révision. Est-ce que là, le fait, l'article 151, qui a dit l'initiative appartient concurremment au président de la République, un parlementaire qui initie, est-ce que la procédure n'est pas respectée? Bon, c'est vrai, compte tenu de ce qu'on a débattu tout à l'heure au sein du Parlement, hein, plus présentement, le Parlement est monocaméral, la procédure de révision ne peut pas aboutir. Et donc, c'est dans le cadre de la collaboration entre les deux pouvoirs exécutifs et législatifs que l'exécutif a pris le lead pour faire cette proposition, ou bien rédiger. Ce n'est pas le projet, comme a dit M. Ndoulou Tchangaï, un projet enfin, c'est même spécifié, j'ai le texte rédigé par le président, c'est un projet de révision d'une nouvelle constitution de la République centrafricaine. Ce n'est pas rédigé directement à la nouvelle constitution de la République centrafricaine. Et donc, de mon point de vue, indépendamment de tout ce qu'on a dit jusqu'ici, même en l'absence du Sénat, je dis, et puis je réserve, je ne le dis pas, en fonction de ce que je sais, en l'absence du Sénat, on peut bien conduire ce processus à terme. En l'absence du Sénat, je le dis en fonction de ce que je sais. On mais peut bien conduire
c'est
ce processus.
Dites aux centrafricains, c'est que et vous savez.
Je ne le dis pas.
Ouais, mais alors,
voilà. Pour l'instant, je ne le dis pas, je réserve le droit. Je le dirai à qui de droit.
Est-ce que l'idée est là, l'idée de ne pas respecter la décision de la Cour constitutionnelle, c'est ça, ou bien
voilà. Non, l'idée, ce n'est pas de respecter, non. Donc, on est dans un état de droit, on doit se plier au verdict.
Et donc, ça veut dire que voilà. votre comité n'est pas plus
fonctionnel. Le chef de l'État avisera, prendra toutes les responsabilités, il va être de retour. Et peut-être, s'il tient à sa réforme, moi je dis bien réforme, s'il veut mener une réforme dans ce sens, ben, il peut agir dans le cadre de l'article 90 de la Constitution.
Oui, maître Nicolas Tchanga, est-ce que cette mise au point de la Cour constitutionnelle était nécessaire?
Mais bien sûr que c'était nécessaire. Vous savez, quand on parle de... Et sur ce point précis, je crois que le professeur Louis Abela n'a pas répondu à ma question, c'est-à-dire sur le contenu de la distinction entre souveraineté nationale et souveraineté populaire.
Ouais, ça m'a échappé, si vous voulez, je reviendrai là-dessus.
Oui, tout à fait. Donc, le contenu que vous donnez à ces deux concepts, les deux concepts, quel est le contenu de ces deux concepts-là? Maintenant, en ce qui concerne la question de... Et je crois qu'on peut lier ça à la question du peuple, puisque le président de la République dit que c'est le peuple qui demande. Et la Cour constitutionnelle dit que les porteurs de pancartes ne sont pas, c'est pas le peuple. Vous, quand vous dites que le BRDC, mais nous aussi là, nous faisons partie du peuple. Vous ne pouvez pas dire que c'est la galaxie là qui constitue le peuple, ou bien le... On appelle le truc de Doningue, là.
Front républicain.
Le Front République, c'est eux, le peuple.
Je veux dire, le truc de Doningue, c'est un parti politique au même titre que...
C'est pas un parti politique.
Il me semble que dans la décision, on l'a inscrit comme parti politique.
C'est une association.
C'est ce que j'ai vu dans la décision de la Cour constitutionnelle.
C'est le Front républicain, la galaxie, c'est eux, le peuple. Et nous, BRD, c'est là, on n'est pas le peuple.
Non, on n'a pas
mais c'est pas les porteurs de pancartes qui constituent le peuple. Et la Cour a donné une précision... Quand on parle du peuple, c'est l'expression de la volonté résultant d'un référendum ou les lois votées par les députés qui constituent la représentation nationale. Donc les autres qui portent les pancartes dans les quartiers, qui racontent leur vie, ils ne sont pas les représentants du peuple centrafricain. Et cette précision a été donnée par la Cour constitutionnelle et moi, je ne peux que approuver cette position.
Oui, mais tout à l'heure...
Je réponds rapidement.
Oui, bon, ça, ce sont des manifestations. Il y a des formes de participation politique, M. Nicolas Tchanga. Il y a des formes conventionnelles, comme vous l'avez dit, il faut voter, etc. Et puis, il y a aussi des formes non conventionnelles.
Oui,
participation spontanée, ça fait partie également de la participation
politique. Comme le meeting de BRDC cet après-midi à Bimbo, là.
Oui, ça, c'est conventionnel, il n'y a pas de problème. Ça, c'est prévu.
Et mais donc, nous ne revendiquons pas la souveraineté nationale, ni populaire.
Voilà. Et c'est donc la fin de ce débat politique.
Mais je voulais répondre à cette question.
Merci beaucoup à vous, messieurs, d'avoir participé à ce débat d'aujourd'hui. Nous avons parlé de la décision de la Cour constitutionnelle qui a annulé toute initiative de rédiger une nouvelle constitution centrafricaine. Merci à toutes et à tous d'avoir été des nôtres. D'ici d'ailleurs, le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Même heure et même fréquence. Portez-vous bien car on ne vit qu'une seule fois. Au revoir.